Prélude, une émission réalisée par Christian Malaplate avec Stéphane Marin à la technique. Aujourd'hui, Alessandro Scarlatti, le maître de la cantate. Voici le premier mouvement de la sonate numéro 3 en do mineur pour flûte et orchestre à cordes d'Alessandro Scarlatti. Tout au long de leur histoire, l'oratorio et l'opéra utiliseront le même langage, récitatif et arias, ainsi qu'un goût prononcé pour la virtuosité. Et leur succès repose sur les mêmes ressorts. Éloignés des contraintes de la représentation généralement assez brève, l'oratorio se divise en deux parties, héritées du temps où la musique devait introduire et prolonger le sermon pour en renforcer la portée. Dans ce cadre très souple, le compositeur Alessandro Scarlatti développe librement aria, ensemble, chœur, relié par une narration confiée au chœur ou en soliste. La Giudita est une des œuvres les plus abouties d'Alessandro Scarlatti. Cet oratorio prend pour argument un épisode de la Bible, pour sauver la ville de Béthulie, assiégée par la puissante armée assyrienne de Nabucodonosor, une jeune juive, Judith, séduit le général Holopherne et lui tranche la tête, favorisant par sa ruse la victoire du petit peuple d'Israël. Alternant épisodes martiaux et commentaires lyriques, l'œuvre utilise les éléments caractéristiques de l'opéra seria. La symphonia d'ouverture n'a encore que deux mouvements, allegro et grave. Voici la deuxième partie et la fin de l'oratorio, la Giudita d'Alessandro Scarlatti.
Scontar gli stessi. Già l'alba e non si sente ancora di Giuditta l'impresa. Onde principe o zia che più s'aspetta, rendasi la città con patti onesti e l'inganno da chior punito resti. Traditor, 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 con dolci accenti ce l'attenti le menzogne del tuo cor. Con dolci accenti ce l'attenti le menzogne del tuo cor. Le menzogne del tuo cor. Traditor, 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 traditor.
Il mio posto volgerò. Alle deine
Je vais vous parler maintenant de Domenico Scarlatti. Domenico Scarlatti est le sixième enfant d'Alessandro Scarlatti. Il est né le 26 octobre 1685 à Naples. Son talent est si précoce que le 13 septembre 1701, il est nommé organiste et compositeur de la chapelle royale. Mais la guerre de succession d'Espagne provoque à Naples une grande instabilité politique qui pousse Alessandro, son père, à se rendre à Florence avec son fils. N'obtenant rien d'officiel, il s'en retourne à Rome et Domenico, dans l'espoir sans doute d'obtenir le poste laissé vacant par son père, compose ses premiers opéras pour Naples où la situation reste précaire. En 1705, jugeant que son fils ne retirerait rien de bon de son séjour à Rome, Alessandro l'envoie à Venise. Il rencontre Handel, avec lequel il noue une profonde et durable amitié. Le cardinal Ottoboni opposera en 1709 les deux jeunes musiciens au cours d'un tournoi musical. Chacun se prodigie à l'orgue et au clavecin, et Domenico l'emporta au clavecin tandis que Handel le surpassait à l'orgue. Il fait à la même époque la connaissance d'un musicien irlandais, Thomas Rosengrave, qui jouera un rôle déterminant pour la diffusion des sonates de Domenico Scarlatti outre-Manche. En 1709, Domenico est de retour à Rome. On le trouve dans l'entourage du cardinal Ottoboni, comme son père. Comme lui encore, il profite de la protection d'une reine en exil, Maria Casimira de Pologne, pour laquelle Alessandro a écrit plusieurs opéras. Pour elle, Domenico écrit 7 opéras entre 1710 et 1714. Mais des difficultés financières contraignent la reine à quitter l'Italie et Domenico cherche d'autres protecteurs. Il devient en 1715 maître de chapelle à Saint-Pierre de Rome et est aussi engagé par le marquis de Fontes, ambassadeur du Portugal auprès du Vatican, qui le recommande chaleureusement à son souverain. Sa renommée de virtuose est grande. Il n'est encore que le fils de son illustre père n'ayant rien accompli d'extraordinaire. En 1719, Domenico quitte l'Italie pour le Portugal, dont le roi Jean V, dit le Magnifique, est réputé grand amateur de musique. Nommé maître de la chapelle royale de Lisbonne, il est aussi chargé de l'éducation musicale du frère cadet du roi et de sa fille Maria Barbara, née en 1711. On ignore presque tout de sa vie au Portugal, tous les documents ayant été détruits lors du tremblement de terre qui rasa Lisbonne en 1755. On sait seulement qu'il retourne deux fois en Italie. En 1724, il voit son père pour la dernière fois. Et en 1728, il se marie à Rome avec une très jeune femme, Maria Barbara. Est aussi laide que bonne musicienne et une réelle amitié, une étroite connivence musicale et une mutuelle estime unit bientôt le maître à sa talentueuse et royale élève. En 1725, elle est fiancée à Ferdinand, fils du roi d'Espagne. Le mariage a eu lieu au début de l'année 1729. et Domenico accompagne son élève vers sa nouvelle patrie qui sera désormais la sienne jusqu'à sa mort. La mort d'Alexandro, c'est-à-dire son père, l'installation dans un pays nouveau, la sécurité affective et professionnelle vont avoir sur Domenico Scarlatti un effet libérateur et permettre le véritable essor de son génie. À la mort du roi Philippe V en 1746, Ferdinand et Maria Barbara montent sur le trône, mais la vie de la cour reste triste. Le nouveau roi a hérité de la maladie nerveuse de son père, tandis que Maria Barbara souffre d'un asthme sévère. Domenico travailla intensément pour son élève, qui paya fidèlement les dettes que ce joueur acharné laissait derrière lui. Il meurt à Madrid le 23 juillet 1755, un an avant Maria Barbara. Voici la sonate en sol majeur pour piano de Domenico Scarlatti. Les petites pièces pour clavecin que Domenico Scarlatti appelle exercice sont parfaitement originales, n'appartiennent à aucun genre défini et n'auront pas de descendance, restant isolées dans l'histoire de la musique. Voici la sonate en ré majeur pour clavecin de Domenico Scarlatti. Domenico Scarlatti a composé aussi des concertos grosso. Le concerto grosso est une forme musicale utilisée en musique baroque dans la tradition italienne. Le concerto grosso apparaît pour la première fois vers 1670 en Italie, issu de la musique de danse vénitienne. Pour être exécuté, le concerto grosso utilise une formation comprenant des instruments aux tâches bien définies. Le concertino constitue les instruments solistes, le plus souvent de violon et en violoncelle, parfois en alto. Le ripieno constitué des autres instruments à cordes et la basse continue, comprenant la basse de viol et le clavecin. Le concerto grosso est souvent découpé en quatre mouvements, alternativement lent et rapide, avec des écritures qui favorisent l'échange entre le concertino et le ripieno. Au début du XVIIIe siècle, quand la période baroque cesse d'exister, le concerto grosso laisse sa place à la symphonie concertante, où le jeu du soliste gagne en virtuosité. Le concerto de soliste, puis le concerto symphonique, à la fin du XVIIIe siècle, offrent un langage, un dialogue plus tranché entre le soliste et l'orchestre. Concerto grosso, numéro 12, en ré majeur, de Domenico Scarlatti. Rediffusion de l'émission dimanche de 7h à 8h. Samedi prochain, l'émission Prélude sera consacrée à Georges-Philippe Telemann, concerto et cantate solennelle. Bonne semaine à tous.